Bonjour à tous. J'avais envie ce matin de partager l'expérience d'un homme avec Dieu. Un homme qui a eu trois rendez-vous particuliers avec le Seigneur, trois révélations particulières. Cet homme, c'est Jacob. Je relisais la vie de Jacob et à partir du chapitre 28, on a quelques épisodes de sa vie qui vont nous être dévoilés. Et je me disais, en relisant ces textes-là, qu'il a eu trois points de rencontre particuliers avec Dieu dans sa vie. Trois temps de révélation. Trois rendez-vous avec Dieu. Et c'est ce qui lui a permis de rentrer dans les promesses du Seigneur. Et je me disait que peut-être nous étions parfois tellement exigeants vis-à-vis de notre Dieu quand nous attendons à ce que tous les jours on vive un buisson ardent, que tous les jours Dieu nous parle, se révèle, réponde à nos questions, que chaque jour il puisse toucher nos cœurs, nos vies, nous apporter une révélation. Et quand on regarde les modèles que nous avons dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament en particulier, leurs vies sont émaillées de quelques points de rencontre fondamentaux, essentiels, et puis le restant, vous savez ce qu'ils faisaient, ils marchaient par la foi. Nous sommes dans une génération particulière, nous sommes dans une génération qui est marquée par le tout de suite et maintenant. On veut tout de suite et maintenant que Dieu réponde, que Dieu dise. Même s'il nous a déjà rencontrés, même s'il nous a déjà parlé, nous attendons à ce qu'il nous répète les choses. Nous sommes la génération d'Internet où il faut appuyer sur un bouton et tout de suite on a la réponse. Vous savez, j'ai remarqué cela dans ma famille. On est en train de discuter avec des amis ou avec des proches dans la famille et puis on se pose une question. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui, avec son smartphone, vous donne la réponse dans les 30 secondes. C'est bien, et c'est énervant, de vouloir avoir toujours la réponse plutôt que de laisser les choses et d'attendre que les choses viennent dans notre vie. Et nous sommes un peu comme cela avec Dieu. Alors Jacob a rencontré ou fait trois temps de rencontres, vécu trois de temps de rencontres particuliers avec Dieu. Le premier se trouve dans le chapitre 28 du livre de la Genèse, à partir du verset 10. Il est dit ceci. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet, et il donna le nom de Bethel à cet endroit. Premier temps de rencontre que Jacob a avec Dieu, premier temps de révélation. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois où Dieu s'est révélé à vous. Est-ce que vous avez vu les cieux ouverts? Est-ce que vous avez vu une échelle qui reliait le ciel et la terre? Est-ce que vous avez vu des choses extraordinaires? Mais je pense que chacun pour notre part, nous pouvons certainement nous rappeler la première fois où nous avons rencontré Dieu. Ce moment exceptionnel d'intimité, de découverte. Or, dans ce temps où Jacob rencontre Dieu, c'est un temps de sa vie qui est aussi très particulier. Si vous vous rappelez l'histoire, il a été tellement, comme son nom l'indique, un trompeur, un homme à chercher ses intérêts, qu'il a fini par énerver son frère Ésaü, et que sa mère, Rebecca, lui a dit « Écoute, j'ai entendu ton frère dire qu'il allait te tuer, donc pars donc dans ma famille, lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Haran, et tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. » C'est dans ce contexte-là que Jacob se lève et part. Et c'est sur le chemin, cette route presque d'un exil volontaire, qu'il va faire cette expérience de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas un moment glorieux dans sa vie. C'est la trouille, c'est la peur, c'est la sortie aussi des promesses qui s'attachent à cette fameuse bénédiction qu'il a demandée, qu'il a réussi à obtenir au détriment d'Ésaü. C'est toutes ces promesses-là qu'il laisse derrière lui. Dans sa fuite, dans sa peur d'assurer son destin, voire même son appel, Jacob a cette vision d'une échelle, d'un objet qui fait le lien entre le ciel et la terre. Dans Colossiens, il y a un verset de l'apôtre Paul qui peut-être peut symboliser ou démontrer le rôle de cette échelle, cet escalier qu'il y a entre le ciel et la terre, et où Paul parle de la croix en disant « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, donc Dieu, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Il y a eu à Golgotha cette croix plantée qui est semblable à cette échelle, un endroit qui a relié et qui relie encore le monde spirituel et le monde des hommes. C'est cette révélation-là que Jacob a eue en faisant ce voyage, qu'il y avait, malgré sa situation, là où il en était dans sa relation avec Dieu, là où il en était par rapport à sa propre vie, qu'il y avait de la part de Dieu la volonté de maintenir une relation, une communication avec lui. Dieu lui disait sur la route qu'il avait choisie en quittant la terre de la promesse, Dieu lui dit « Je continue à vouloir accomplir mes plans dans ta vie. » Avoir un Dieu qui veut communiquer, parler, continuer à être en relation, c'est là le miracle de la grâce que vit Jacob dans sa situation. Ah, un Dieu qui communique, qui veut continuer à communiquer, quels que soient les chemins où nous allions. Il y avait un prédicateur dans les années 1700 qui était un frère, qui faisait partie des ordres des frères prêcheurs. Il était tellement convaincu que Dieu voulait communiquer avec l'Église qu'il laissait entrer des gens dans l'Église. Et une fois qu'ils étaient entrés, il fermait la porte de l'Église à clé pour qu'ils restent là, pour être sûr qu'ils puissent être rencontrés par la parole de Dieu. Si vous avez envie de quitter cette salle-là maintenant, la porte est toujours ouverte. Mais Dieu n'empêche un Dieu qui veut continuer à me parler et à te parler aujourd'hui, où que tu sois dans ta vie. Jacob, ce n'est pas un voyage où il va de l'avant par rapport aux promesses que Dieu a données à son grand-père Abraham. Il retourne où il va dans la famille de sa mère, à Haran. Et vous savez quoi ? Haran, c'était la ville par laquelle Abraham était passé pour venir dans la terre de la promesse. Lorsque Dieu s'était adressé à Abraham, il lui avait dit « Va-t'en de ton pays, quitte ton pays et va là où s'accomplira ma promesse pour toi. » Et Haran était une des étapes mais il n'est pas resté à Haran. Il a laissé sa famille, son père, son autre frère, etc. Et il a continué jusqu'à la terre promise. Vous trouverez ça dans le début du livre de la Genèse. Que fait Jacob ? Il retourne en arrière. Ah. Cette ville d'Haran est située au sud-est d'Urfa, c'est-à-dire en Turquie. Ah ouais, ça. Vous rendez compte le voyage ? Le voyage en arrière ? Elle est sur la route commerciale entre Ninive et Alep. Alep, vous voyez un petit peu où ça se trouve maintenant, avec tout ce qu'on en entend parler à l'heure actuelle. C'est dans cette région-là que repart Jacob. Il quitte vraiment, il repart en arrière. Rebecca était originaire de cette ville, et c'est là qu'elle envoie son fils pour le protéger. J'ai envie de dire que tant la mère que le fils jouent la carte de la sécurité du maintenant, sans tenir compte des promesses que Dieu avait faites aussi bien à Abraham, à Isaac qu'à Jacob. Alors, cette vision-là nous parle d'un homme qui, sur ce terrain de peur, de crainte, rencontre un Dieu qui lui dit « Quelle que soit la route que tu prennes, maintenant, même si elle t'éloigne de mes promesses, je demeure et je veux continuer à être un Dieu qui veut être en relation avec toi. » Cette révélation-là, Jacob va la recevoir, avec crainte aussi et tremblement, en disant « Certainement, c'est là un lieu redoutable, puisque ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu. » Il n'a pas toute la compréhension de ce qui se passe. Il n'a pas toute la compréhension d'un Dieu qui lui parle à lui en lui disant « Je veux continuer, quelle que soit ta route, à parler avec toi, à être avec toi, même si tu retournes en arrière. » Waouh ! Est-ce qu'on n'a pas fait parfois des chemins en arrière dans nos vies ? Vous savez, Dieu nous a parlé, nous a conduit, on est entré dans ses voies. Puis à un moment donné, on a choisi des chemins de traverse, retourné un petit peu en arrière. Et Dieu toujours a été fidèle. Dieu a été un Dieu de grâce. Dieu est toujours un Dieu de grâce. Et il y a des personnes qui peuvent me dire « Oui, mais une fois qu'on est passé à côté des promesses de Dieu, c'est terminé. » Non ! Dieu est toujours le Dieu de la grâce, le Dieu du pardon et le Dieu des promesses qui s'accompliront dans notre vie. On peut bien évidemment passer à côté de certaines choses parce que le temps a passé, mais il n'empêche que Dieu sera toujours le Dieu de la grâce et du pardon. Alléluia ! Jacob reçoit cela, cette révélation, au moment où il quitte la terre de la promesse. Vous savez combien de temps il est resté éloigné des promesses de Dieu en partant à Haran ? 21 ans. Entre 20 et 21 ans. 20 et 21 ans. Wouh ! Ça peut coûter cher d'avoir peur, d'avoir crainte, de ne pas affronter les promesses de Dieu dans sa vie. Ça peut prendre du temps pour revenir. La parole de Dieu ne nous dit pas si Rebecca lui a envoyé du courrier, des SMS, un message, des messagers. Elle lui a simplement dit « va te protéger ». On a parfois des gens dans notre entourage qui peuvent, par souci de protection, de dire « prends donc cette route-là, va dans cette direction-là, ce sera plus sécure pour toi ». Mais après, il faut assumer seul. Et Jacob a assumé seul le choix qu'il a dû faire. Et pour autant, Dieu se révèle à lui par un rêve. Dieu maintient son désir de parler à Jacob comme à tout homme, toute femme qui va choisir un autre chemin. Et là, il lui parle par un rêve. C'est un mode de communication étrange. Vous savez que dans la Bible, il y a à peu près 250 fois la mention de rêves qui sont donnés aux hommes. 250 fois. Une manière pour Dieu de parler là aussi, quand dans toute notre conscience, on lutte et on écarte ou on ne veut pas entendre Dieu, Dieu arrive encore à nous parler lorsque nous sommes dans le sommeil. 250 fois dans la Bible. Et le livre de Job dit ceci, « Dieu parle cependant d'une manière, Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Ah là, quand on est endormi, c'est une manière pour Dieu de dire « Toutes les gardes sont baissées et je peux te parler par des visions, par des songes. » Jacob rêve. Il y a un philosophe qui disait « Dans la vie, tu as deux choix le matin. Deux choix. Soit tu te recouches, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. » J'aime bien cette phrase. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Ça m'arrive parfois de me réveiller et j'étais dans un rêve et j'ai pas la faim. Ça vous est pas arrivé, ça ? Vous savez, je suis bien là, il y a quelque chose qui est agréable, tout, et ça va presque aboutir. Le réveil sonne, ma femme bouge, je ne sais pas, et tout à coup, je sors de mon rêve. Et alors, je me pelotonne dans mon lit, puis je me dis, je vais essayer de le raccrocher, de retrouver le rêve qui s'est... Ça ne marche pas beaucoup, hein. Mais j'aime cette parole. Quand tu te réveilles, tu as deux alternatives dans ta vie. Le matin, tu te recouches pour continuer à rêver, ou bien tu te lèves pour réaliser tes rêves. C'est Einstein qui disait « La logique te mènera de A à Z, mais l'imagination et le rêve te mèneront plus loin encore. » Une autorité quand même. Ah, c'est dans le livre de la Genèse au chapitre 41 où Joseph dit à Pharaon, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et puis on a Daniel dans le chapitre 4, verset 9, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Dieu donne l'explication des visions et des rêves que nous pouvons avoir. Une manière de nous parler, de nous révéler. Les rêves, c'est quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu étudié tout ce qui est du travail, du sommeil, etc. Moi, mon travail, j'ai dû travailler là-dessus au cours d'un séminaire. Puis j'ai retrouvé quelques notes qui disaient que le rêve se produit pendant le sommeil et on n'a aucun pouvoir d'influencer les sujets ou les images qu'on rêve. On n'a pas la maîtrise, ça part. Puis vous ne pouvez pas dire, non, ça je ne veux pas, je vais trier, je vais aller dans... Non, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont incontrôlables et ils sont très rarement répétitifs. Et dans le sommeil, on a des cycles. Dans un temps normal de nuit de repos, 8 à 9 heures, on a à peu près 4 à 5 cycles de sommeil qui durent 90 minutes. Et c'est un cycle qui est composé de 4 phases. Le pré-sommeil, la somnolence, le sommeil lent et profond et le sommeil paradoxal et la phase intermédiaire ou pré-réveil. Et en fait, les rêves se produisent généralement dans la partie du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et dans ce cycle de sommeil, les recherches scientifiques affirment que les rêves sont aussi nécessaires que le fonctionnement normal d'un être, comme la respiration ou la circulation sanguine. Alors, en ce qui concerne les rêves, on peut dire que le rêve, c'est presque une radiographie de la situation psychique de l'individu, une image personnelle, ponctuelle de la situation de vie du rêveur. C'est-à-dire que dans nos rêves, il y a des choses qui se passent qui sont des fonctionnements de régulation aussi. Et il y a plusieurs classifications, on pourrait dire, de rêves. En ce qui nous intéresse, en ce qui nous concerne, c'est les rêves qui sont inspirés par Dieu et qui sont produits dans la phase du sommeil profond. Les rêves inspirés par Satan aussi, plus dans le sommeil paradoxal. Et puis, il y a les rêves neutres, qui sont les rêves humains générés par nos obsessions, nos désirs, nos envies non satisfaites, nos situations dans notre vie personnelle, active, etc. Eh bien, c'est dans cette situation-là que Dieu s'inscrit et vient nous parler. Est-ce que vous avez déjà vécu cette rencontre avec Dieu comme Jacob qui a commencé à rêver et qui a été rencontré par Dieu? Moi, je me souviens de, je crois, deux épisodes où j'ai vraiment eu la conviction que Dieu, dans mon rêve, me parlait. Vous aurez des visions, des songes. Est-ce que nous sommes dans cette situation-là de laisser, là aussi, Dieu rentrer dans nos phases d'abandon? Jacob voit une échelle, et dans cette échelle-là, des anges qui montent et qui descendent avec Dieu au-dessus. Un Dieu qui proclame « Là où tu es, je veux toujours être ce Dieu qui te rencontre, qui vient vers toi, qui communique avec toi. Là où tu es ce matin, pas dans cette pièce, pas dans cette salle, mais là où tu te tiens dans ta vie, Dieu te dit « Je suis là pour continuer à te parler et à être en relation avec toi. » Lorsque Jacob s'éveille, il prend la pierre sur laquelle il était adossé ou couché, et puis il dit ceci, « Certainement, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Il y a quelque chose que, certainement, Jacob n'a pas compris. C'est que lorsque Dieu s'est révélé à lui, c'était pour lui dire qu'il serait toujours avec lui, là où il serait, même s'il part en Turquie. Je serai toujours ce Dieu-là. Même si tu es dans la colère, dans la désobéissance, même si tu empruntes d'autres chemins, je resterai avec toi. Pas besoin de construire un hôtel. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut demeurer avec moi, quels que soient les chemins que je suis. Et on peut s'inquiéter pour un ami, un frère, une sœur, un fils, une fille qui se sont éloignés de Dieu. Moi, je crois pertinemment que Dieu, quel que soit le chemin qu'ils empruntent, même si ça dure 20 ans, ils reviendront dans la terre promise. C'est ça la promesse de Dieu. Est-ce que ça ne vous fait pas chaud au cœur de l'entendre? Est-ce que ça ne vous fait pas vibrer? Est-ce que comme les pèlerins d'Emmaüs, vous n'êtes pas là en train de vous dire « Mais notre cœur ne brûlait-il pas quand nous prenions conscience des promesses de Dieu ?» Jacob, au lieu de mettre une pierre, il aurait dû se dire « Quelle que soit la route que je vais choisir et emprunter, Dieu sera toujours avec moi. Les anges monteront et descendront et Dieu sera toujours le Dieu de la promesse pour ma vie. » Dieu est toujours le Dieu de la promesse pour toi dans ta vie, quels que soient les chemins que tu aies empruntés. Et il y a ce petit mot au verset 21. Si Dieu, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. On est bien avec Jacob. Le marchandeur, ce type, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de marchander avec Dieu. Et si Dieu fait ceci, et si Dieu fait cela, alors, vous savez que l'expérience fondamentale pour Jacob, c'est pas la vision de l'échelle, c'est celle qu'il aura à son troisième rendez-vous lorsqu'il va se battre avec l'ange de Dieu. Mais là, il est toujours dans une forme d'incompréhension de ce qui se passe. Ah, si Dieu fait ceci pour moi, si Dieu, je vais à Haran, je sors de la terre de la promesse, je n'ose pas affronter mon frère parce que j'ai peur, etc. Mais si Dieu fait ceci, et on est tellement comme cela, vous ne croyez pas? Combien de fois dans ma vie, j'étais pas forcément dans la pensée du Seigneur et je marchandais avec lui, quand même, parce que l'orgueil est là. Et la volonté d'être béni aussi. Et c'est légitime. Mais encore faut-il être dans les promesses de Dieu. Et il dit, hein, y a-t-il ce... s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon... Et si je retourne ? Ça s'appelle une conversion, ça. Métanoïa en grec. Si je retourne, si je reviens là où je dois être. Et il dit ça au début des 20 ans où il va rester en dehors des choses du Seigneur pour sa famille. Si je retourne, eh bien retourne tout de suite. Pourquoi attendre 20 ans ? Il fera 20 ans comme Israël a fait 40 ans dans le désert. Et comme nous faisons parfois des temps tellement longs en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Si je retourne en paix, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il ne comprend pas que Dieu est déjà son Dieu. Ce n'est pas quand il sera retourné, mais Dieu, d'ailleurs Dieu le lui dit dans cette révélation, il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, ta descendance. » C'est-à-dire toi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis avec toi maintenant, maintenant, pas demain, pas dans 20 ans, je suis avec toi. Et Dieu est avec ceux qui ont choisi d'autres routes et il continuera à être avec eux dès lors qu'ils ont perçu les promesses de Dieu. Le deuxième rendez-vous que Dieu a, c'est au chapitre 32. Jacob a passé ses 20 années dans la maison de Laban. Il s'est fait lui-même tromper par Laban avec la femme qu'il voulait épouser. Il a eu Léa au lieu de Rachel. Il a retravaillé 7 ans et il a eu enfin Rachel pour épouse. Puis il a retravaillé environ 7 ans pour ses troupeaux, ses animaux, etc. Et au bout de 20 ans, à un moment donné... il sent qu'il y a de la tension entre lui et son beau-père, et puis avec les ouvriers de son beau-père. Alors il décide de partir pour Canaan. La motivation, c'est encore, il faut que je préserve mes biens. Dans le fonctionnement de Jacob, ce sera en permanence son intérêt, je dirais, économique qui va dominer. Donc là, je suis en difficulté, je vais retourner en Canaan. Il n'y retourne pas parce que c'est le pays de la promesse, mais il se dit, je ne peux pas rester là, il faut que j'aille ailleurs. Ailleurs, ben, c'est Canaan, je vais y retourner. Hein. Il retourne sur la route de Canaan, quelques routes à faire avec femmes, enfants, troupeaux. Et à un moment donné, sur le chemin, alors que Laban l'a rattrapé et Jacob a été un petit peu effrayé des relations qu'il pourrait y avoir, puis finalement ça se passe bien. Moi, c'est dans le fonctionnement de Jacob, il y a quelque chose qui est dans le traitement de la peur et de la crainte assez instructive. Si vous regardez, il a peur de Laban, puis finalement tout se résout. Et Laban retourne, dit-il, et Laban se leva de bon matin, au chapitre 32, verset 1. Il embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, Laban partit pour retourner chez lui. Ah, j'aime beaucoup ce petit verset, vous savez. Jacob, il s'est fait une montagne des difficultés qu'il allait avoir. On le voit dans le chapitre 31. Donc, il faut que je me sauve. Il construit toute une stratégie qui est basée sur la peur et la crainte. Ouais. Jacob n'est pas très différent de nous. Hein. Croyez pas ? Toutes les stratégies que nous faisons quand nous sommes basés sur nos craintes et nos peurs. Et puis finalement, quand on fait confiance à Dieu, comment on voit Dieu agir et conduire toutes choses ? Est-ce qu'on apprend de cela ? Jacob, il apprendra, mais un tout petit peu plus tard, Dieu nous appelle à dépendre de lui, à faire reposer notre vie sur la confiance, la foi, l'assurance qu'il est notre Dieu. Et là, le deuxième point de rencontre dans la vie de Jacob se produit juste après le départ de Laban, et il n'en est parlé que sur deux versets. Jacob poursuivit son chemin, chapitre 32, verset 2, et des anges de Dieu le rejoignirent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à cet endroit le nom de Mahanaïm, c'est-à-dire les deux camps. C'est assez étrange comme expérience. Deux versets pour dire que, alors qu'il est sur le chemin du retour, Jacob arrive à un endroit et il vient de quitter Laban. Et soudain, il y a des anges de Dieu. Alors, il est parlé ici d'un camp au sens militaire. C'est Michel qui nous a parlé récemment de cet épisode dans le livre des Rois où il y a Élisée qui montre à son serviteur les chars et les armées d'Israël qui sont plus nombreuses dans le ciel entourant la cité où il se trouve par rapport aux ennemis. Eh bien, on peut dire qu'ici, Jacob fait la même expérience. Il est sur le terrain du retour. Il vient de se séparer de Laban. Et j'ai envie de dire, j'imagine Jacob au milieu de son troupeau, de sa famille, dire « Ouf, une histoire de régler. Laban, c'est passé. » Mais reste toujours le problème d'Ésaü. Et quand on lit le chapitre 32 de la Genèse, on s'aperçoit que là encore, Jacob a la tête prise par sa peur d'Ésaü, par ses réactions. Depuis combien de temps il n'a pas vu son frère ? 20 ans. Et pourtant, 20 ans après, aucune nouvelle, rien. Il est toujours dans cette certitude que son frère va le tuer, etc. Et qu'il doit se préparer à ça. Il va avoir une stratégie hyper compliquée. D'abord, il va séparer ses biens en deux, en se disant, si je perds la moitié, je garde l'autre. Quand je vous disais que Jacob... trompeur, intéressé. Il se dit, au moins, il en prend la moitié, je garde la moitié. On peut redémarrer avec 50%, hein ? C'est ça. Ensuite, il va envoyer des cadeaux à son frère, et puis ensuite, il va faire précéder avec ses femmes, enfants, etc. Et toute une stratégie. Toutes les stratégies que nous mettons en place quand nous avons peur et crainte, et que nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Et c'est dans cette attitude-là, cette position-là, qui habite le cœur d'Ésaü, qu'il fait cette expérience du camp, des deux camps de Dieu. Ce lieu, Mahanaïm, c'est un lieu qui se trouve à l'est du Jourdain, et ça va devenir aussi, c'est une ville qu'on va retrouver comme ville lévitique à l'intérieur du territoire de Gad, de la tribu de Gad. Quel est le sens de cette vision ? Elle est très courte. Hein ? Il voit des anges de Dieu, il les rencontre, il dit, suivant les traductions, et il les voit comme un camp, je dirais militaire, qui est là, à côté de son camp. Ce camp, c'est une manière pour Dieu de dire à Jacob, ton camp à toi, tu peux en faire ce que tu veux, les forces que tu as, ce qu'elle représente, les biens que cela représente, c'est ces choses terrestres, mais regarde ce qui est autour de toi et à côté de toi, ce qui campe autour de toi et à côté de toi. Dieu voulait qu'il se rende compte qu'il pouvait s'appuyer sur la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Ces anges, ces puissances qui sont là, je crois qu'elles existent encore et toujours, ces puissances spirituelles au service de l'Église. Il y a Mel Tari qui faisait, il y a 40 ans, un missionnaire aux Philippines, ou je ne sais plus dans quel autre coin, et qui à un moment donné était attaqué par des adversaires dans une tribu où il se trouvait. Et puis les adversaires étaient en surnombre, comme un souffle violent. C'est ça, son témoignage, à Timor. Et le village était cerné, c'était un village de chrétiens, et puis les ennemis étaient là pour venir tuer les chrétiens. Et pendant la nuit, les ennemis sont arrivés, ont campé autour, et ils n'ont pas attaqué. Et c'est un témoignage réel, c'est pas... Là, pour le coup, on est dans la même réalité que dans la vie de Jacob, et le lendemain matin, le soleil s'est levé, et les villageois, chrétiens, étaient étonnés en se disant, mais Ils auraient pu tellement nous détruire, nous supprimer facilement. Ils étaient là avec leurs torches, etc., leurs cris. Et pourtant, rien ne s'est passé. Et quelque temps après, il est allé voir ses adversaires, ses ennemis. Et il leur a dit, mais vous êtes venus jusqu'au village, vous aviez l'intention de tuer les chrétiens, et pourtant vous ne l'avez pas fait. Et la personne en face a dit, mais on n'est pas fou quand même. Quand on a vu tous ces gens autour du village en tenue brillante, qui resplendissaient et qui défendaient le village, on n'a pas voulu risquer de s'attaquer à eux. Ils avaient l'air beaucoup plus puissants que nous. Il n'y avait pas de soldats, il n'y avait pas... Mais il y avait l'armée du Dieu vivant. Est-ce qu'on a la même assurance? Est-ce que le camp de Dieu se trouve autour de nous et de nos vies? Est-ce que nous avons cette même assurance que la puissance de Dieu est présente là? Et que tous les Ésaü du monde, toutes les conséquences de notre péché, parce que c'est cela dont avait peur Jacob, eh bien, n'ont plus de raison d'être parce que Dieu campe avec moi. Le camp de Dieu. C'est Alfred Kuhn qui disait, vous savez, le monde est séparé en deux équipes. Il y a l'équipe qui appartient au Seigneur et puis il y a l'équipe qui appartient à l'adversaire. Et il disait toujours, choisis ton camp. J'aime beaucoup cette formule d'Alfred Kuhn. Choisis ton camp. Tu prends celui de l'adversaire ou tu prends celui de... Il n'y a pas une troisième équipe qui est sur le banc en train de cirer les bancs. Hein. Ça n'existe pas. Dans la réalité, il n'y a que le camp de Dieu et le camp de l'adversaire. Choisis ton camp. Mais si tu es dans le camp de Dieu, pourquoi regardes-tu d'un air effrayé ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi y a-t-il de l'inquiétude? Puisque tu es dans le camp de Dieu. Même si il faut attendre, patienter, vivre des choses, mais tu es dans le camp de Dieu. Que ton cœur soit dans la joie. Réjouis-toi d'être avec Dieu. Et juste après cette expérience du camp de Dieu, c'est la deuxième, je dirais presque, expérience ou rencontre de Dieu avec les choses spirituelles, eh bien, juste après, il arrive au guet de Yabok et il fait passer, alors c'est toute sa stratégie de faire passer une partie de sa famille, de ses troupeaux, de ses biens, etc., avec des émissaires. Et puis il se trouve à ce guet-là et il reste seul. Jacob resta seul à ce guet de Yabok qui est sur le long du Jourdain. Et il est dit, à ce moment-là, un homme ou un ange de l'Éternel se battit avec lui jusqu'à l'aurore. C'est un épisode assez particulier. Jacob envoie un cadeau d'apaisement à Ésaü et il fait passer le guet de Yabok. Vous savez, il y a toujours, à un moment donné dans notre vie, des guets à franchir. Le Jourdain, moi, je trouve qu'il est... C'est pas simplement une rivière, une rivière ou un fleuve. Une rivière, hein. On va dire une rivière aujourd'hui. Il y a Odélia qui dit, attends, j'ai pas pris mon baptême dans une rivière. Hein, c'était plus conséquent. En tout cas, c'est une grande rivière. En tout cas. Mais il y a toujours, pour moi, le Jourdain représente le pas à franchir entre ma vie passée, mes choix personnels et le royaume de Dieu, les promesses de Dieu. Pour moi, le Jourdain, il représente toujours ça dans l'Écriture. Et les guets, ce sont les endroits où on peut passer. Il y a des passages pour aller de ce qui est ancien, de ce qui est nouveau, de ma vie d'avant à une vie nouvelle. Et je pense que notre vie est successivement faite de passages de guets pour entrer dans des choses nouvelles. Là, Jacob au guet de Yabok. Alors c'est un guet assez particulier puisque il y a un jeu de mots entre Yabok, Yaakov ou Jacob, etc. Donc il y a des jeux de mots là autour de ça, mais c'est un passage. Et Dieu nous attend sur ces passages. Qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'aime beaucoup cette pensée que Jacob est resté seul. On est toujours seul quand on doit passer nos guets, quand on doit passer de l'autre côté, quand on doit faire des choix. Personne ne peut les faire à ma place. C'est à moi de choisir, de décider, de dire si je reste d'un côté ou si je passe de l'autre côté, si je rentre dans les promesses de Dieu, si je lui fais confiance. Je suis seul. Et il est dit qu'à ce moment-là, il y eut un combat. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'à la pointe de l'aurore. Alors c'est à la fois un homme, parce que c'est un combat tout à fait physique, l'ange de l'Éternel. Là, ils se bagarrent ensemble. Mais c'est aussi un ange. Et c'est la manière dont il s'adresse à Jacob qui le trahit. Cet homme parle comme un messager de Dieu. Il est aussi un soldat de Dieu. Alors, on parle de l'ange de l'Éternel. Mais alors, s'il est l'ange de l'Éternel, comment Jacob peut-il voir l'ange de l'Éternel et vivre ? C'est quelque chose d'assez étonnant. Comment peut-il se battre avec Dieu et pourtant vivre ? Ce troisième point de contact, c'est Elie Wiesel qui disait « C'est une aventure étrange, mystérieuse, qui fait frémir. » Il y a un mouvement rabbinique qui est né en 1853, qui, dans les années 1800, cherchait à harmoniser la vie quotidienne, moderne. En 1800, c'était déjà une époque industrielle, etc., qui naissait. Et la religion juive. Et donc, ce mouvement s'appelait les Massorties. Et ils ont mis en place des formations rabbiniques, etc. Ça plaira à ma femme, parce que c'est ce mouvement Massorties qui s'est beaucoup développé aux États-Unis. C'est le premier mouvement hébraïque qui a permis à des femmes de devenir rabbin. Donc, la première femme rabbin est devenue rabbin en 1985. Et aujourd'hui, il y a plus de 160 rabbins femmes aux États-Unis et dans le monde. Mais ce mouvement Massorties rabbinique a mis en place une formation. Et dans cette formation, ce master, comme ils disent, en études juives, il y a une obligation dans le master, c'est que chaque étudiant cherche à résoudre l'énigme de ce qui s'est passé cette nuit-là au guet de Yabok. Et ça fait 150 ans que ça dure. Depuis 150 ans, dans l'étude, travaillez là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? 8 versets qui font basculer l'histoire. 8 versets où Jacob recevra le nom d'Israël. Est-ce que Jacob est un trouillard ? Ou est-ce que c'est un homme courageux ? Est-ce que son adversaire est bon et méchant ? Est-ce que Jacob a combattu avec ou contre lui ? Et qui l'a vraiment remporté ? Un mystère dans ce verset, puisque à un moment donné, cet ange de l'Éternel dit, tu lui donnes un nouveau nom, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Attendez, est-ce qu'un homme peut vaincre Dieu ? Est-ce que c'est possible ? Alors c'est ça que les rabbins cherchent à comprendre. Dans ce verset, dans ce passage, Jacob vient de fuir Laban, il se sait poursuivi par la haine d'Ésaü, il s'apprête pourtant à le rencontrer un lendemain, et il y a ce combat qui est là, qui s'ouvre, et avec cet ange qui lui dit à un moment donné « Laisse-moi partir car le jour se lève », et Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni ». Quel est ton nom ? Demande à l'homme. Quel est ton nom ? Je m'appelle menteur. C'est à son nom. Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et que tu as vaincu. C'est un verset qui est là le moment de bascule dans la vie de Jacob, où il passe de Jacob à Israël en faisant une expérience avec Dieu. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Quel est ton nom ? Tu peux peut-être te dire, moi je suis menteur, tricheur, voleur, manquant de foi. Alors, il est dit dans l'Apocalypse qu'il nous donnera un nom nouveau. Un nom nouveau qui efface le passé, qui nous donne une identité nouvelle. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Dieu donne à Jacob une identité nouvelle parce que tu t'es battu avec Dieu. Comment comprendre cette... Est-ce qu'il est possible de vaincre Dieu ? Pas, à votre avis ? C'est un texte qui pose problème. Bon, les Massorties sont toujours en train de chercher, mais la réponse, mais ça pose problème. Vous savez, la réponse, on la trouve en partie dans le livre d'Osée, au chapitre 12, versets 4 à 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, la justice et espère toujours en ton Dieu. Pour moi, la réponse de ce problème, est-ce que l'homme peut vaincre Dieu ? Je crois que oui. Dans le contexte de cette parole d'Osée qui dit « Il fut vainqueur, il pleura et lui adressa des supplications. » La seule manière de vaincre Dieu, c'est de pleurer, de le supplier pour rencontrer le Dieu de grâce. Le combat entre la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, afin que sa grâce s'accomplisse dans nos vies. Alléluia ! Alléluia ! Il n'est possible de vaincre Dieu que dans ce contexte-là. Vous savez quel âge avait Jacob lorsqu'il a combattu l'ange ? Une idée ? 40 ? 40 ? Un peu plus ? 50 ? 70 ? 70 ? Michel ? 40. 100. Ce que disent les textes. Il était vieux. Il a vaincu Dieu. Mais il ne l'a pas vaincu par la force. Est-ce que c'était un rêve ? Est-ce que c'était une vraie bataille ? En tout cas, ils se sont livrés. Moi, j'aime à penser que l'ange de l'Éternel, et vous savez que quand on pense à l'ange de l'Éternel, on pense rapidement à une représentation du Messie, mais l'ange de l'Éternel s'est roulé dans la terre et s'est bagarré avec Jacob, comme le Messie, bien plus tard, est venu sur cette terre, a foulé cette poussière et s'est battu avec les hommes. Et il a vaincu par les pleurs et les supplications. Seigneur, c'est comme cela qu'il a, un peu comme Abraham, vous savez, Dieu avait dit, je détruirai Sodome et Gomorre, etc. Oui, mais Seigneur, s'il reste 50 justes, 20 justes, 10 justes, 5 justes, par ses supplications, par ses prières, par ses larmes, Abraham a réussi à retenir le... Est-ce qu'il a vaincu Dieu ? Par ses prières et ses supplications. Est-ce que Jacob a fait plier Dieu ? Par ses larmes, dit Osée, et ses supplications. Est-ce que nous voulons, je dirais, lutter contre Dieu ? Oh, on peut essayer. On n'a pas son temps. Il nous reste quelques forces. Mais on risque de s'épuiser. Par contre, par les larmes, l'humilité, les supplications, alors nous pouvons être au bénéfice de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve, dira Jacob. Malgré son âge, l'ange de l'Éternel lui a déboîté la hanche pour pouvoir se débarrasser de lui. Il a laissé sur son corps une marque, une blessure. Il est dit dans l'Ancien Testament que c'est depuis ces temps-là que les Juifs ne mangent pas la partie de la hanche des animaux qui sont tués et qu'ils mangent, parce qu'en souvenir de cette époque-là, je ne sais pas quelles sont les marques que nous portons de nos combats avec Dieu. Jusqu'à ce que, vous savez, quand on vous déboîte la hanche, ce qui se passe ? On se met à genoux. On se met à genoux. On ne reste plus debout. C'est aussi une manière pour Dieu de dire « Le combat s'achève quand tu te mets à genoux, quand tu es dans l'humilité, quand tu es dans les larmes, que tu pleures et que tu supplies. Mais quand tu es dans cette position-là, tu n'es pas dans une position de défaite, tu es enfin rentré dans une position de victoire avec Dieu. Et c'est ce qu'il attend de toi, de moi, jour après jour. » Hein, le livre des Proverbes, je terminerai avec cette citation. dit ceci au chapitre 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Pendant des années, Jacob a essayé par sa peine, par ses efforts, par ses tricheries d'augmenter ses biens, d'avoir la bénédiction. C'est quand il a rencontré Dieu au gué de Yabok qu'il a plié le genou devant Dieu, qu'il a pu rentrer dans la terre promise et retrouver les promesses de Dieu pour sa vie. Que le Seigneur nous donne de vivre ces choses-là dans notre vie. C'est un modèle et un exemple là aussi auquel on est appelé à se soumettre et à vivre. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos existences. Merci pour les temps de révélation que tu veux accorder à chacun d'entre nous en fonction de nos chemins, de nos décisions, de là où nous nous trouvons. Tu nous parles Seigneur. Tu as ce désir de te révéler, de nous montrer que là encore, cette échelle, cette croix plantée entre la terre et le ciel demeure un signe de ton désir profond de nous parler, d'être en relation avec nous. Alors Seigneur, donne-nous de pouvoir accepter cette relation. Donne-nous de nous retourner vers tes promesses. Et dans nos combats, nos luttes aussi avec toi, que nous puissions nous mettre à genoux, que nous puissions nous soumettre dans les pleurs ou les supplications pour retourner vers tes promesses, ta grâce dans nos vies. Et nous te prions pour ceux qui sont sur ce chemin, là aussi éloignés de toi, mais qui ont connu ta parole, et bien qu'ils puissent, comme Jacob, vivre ce chemin avec toi. C'est là notre prière. Amen.